Cette semaine, Claire Maillot rencontre Gérard Fromanger. Ce soir, Mota Auto, le paradis étrusque.
Bonsoir Gérard Fromanger.
Oui, bonsoir.
Nous nous sommes quittés hier à la fin de cette décennie 70, une période qui vous a vu militer beaucoup, peindre énormément.
Non, j'ai dit pas militer, c'est autre chose.
Alors
artiste, c'était pas militant.
Engagé.
Plutôt, voilà, ça je suis d'accord.
Depuis lundi, le paysage de nos échanges est urbain, parisien. Mais ce soir, j'aimerais qu'on évoque un lieu cher à votre cœur. Devant moi, il y a cinq ou six photographies qui sont accrochées à votre mur.
Ah oui.
Voilà, c'est sienne. Enfin, c'est Montauto.
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 En italien, on prononce toutes les lettres.
C'est très beau. Vous nous décrivez ?
Montauto. Oui. Ben, sur les photos, sur les images, à la fois de ma maison et de certaines rues et places de Sienne, où se passe le palio, la course de chevaux. C'est ça que vous voulez savoir.
Moi, j'étais plutôt sur votre atelier, votre maison.
La maison.
Quel est son environnement ?
Ah, c'est mon secret, la maison. Oh. Ah oui, c'est privé. Dedans, il y a l'atelier, comme ici. Alors, on peut parler de l'atelier. Mais la maison...
L'atelier, alors ?
La maison, c'était une maison de curé. Ouais, c'était la paroisse, il y a encore une cinquantaine... Oh, il y a 70 ans. Et depuis 1232, dans un village à côté, il y avait des moines. Ça s'appelle d'ailleurs Buon Convento, bon couvent. Et pour demander à la Madone de ne pas faire venir la peste à Sienne, ils ont envoyé deux moinillons, à cet endroit où j'habite, qui était désert, de construire une chapelle pour ce vœu. Et puis quand ils l'ont eu fini, c'était pour remercier la Madone d'avoir arrêté, après quelques dizaines de milliers de morts, la peste à Sienne. Donc c'était un lieu, d'abord historique, quand même. C'est une chapelle avec, au cours des siècles, une maison qui s'est bâtie autour de la chapelle. Voilà, c'est une chapelle qui a l'air d'une tombe étrusque. C'est-à-dire que c'est vraiment le modèle étrusque. Les tombes étrusques sont sous terre, la représentation de où les étrusques habitaient, sur terre. Les tombes sont en creux, les maisons qu'ils avaient sur terre. Et là, c'est à peu près la même forme. Donc ça, c'est impressionnant, c'est simple, j'adore ça, c'est très simple. Et puis une des raisons pour lesquelles je suis là, j'ai choisi ce lieu, je me suis énamouré de ce lieu. C'est beaucoup à cause des Étrusques. Ah, ça fait bizarre.
Comme Giacometti, vous avez découvert, vous vous êtes nourri de cette civilisation étrusque. Qu'est-ce que vous y avez trouvé ?
Ah ben lui, c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on a trouvé le contraire dans cette civilisation. Oui, lui, il y a trouvé... Il y a au petit musée d'un village à côté, il y a une sculpture étrusque, mais vraiment c'est impressionnant. C'est un Giacometti. Ou disons que les dernières œuvres, l'homme qui marche, les femmes comme ça, hiératiques, sont évidemment inspirées par... Il y a deux sculptures étrusques. Alors, c'est impressionnant, à ce point-là, c'est impressionnant. Et alors lui, donc, il y a trouvé... Cette espèce de ce qui reste de la vie quand c'est sur la fin, disons. Une espèce de hiératisme proche des dieux, depuis les Égyptiens jusqu'aux Étrusques. Moi, j'y ai trouvé la vitalité même, parce que j'étais plus sensible plutôt aux tombes de Tarquinia, plus près de Rome. Où dans les tombes de Tarquinia, il y a beaucoup de fresques. Des fresques, alors c'est comme leur nom l'indique, sous terre, des fresques d'une couleur, d'une vivacité, c'est incroyable. Où il y a sur les murs, pour les morts, c'est pas des musées, c'est pas pour les vivants, c'est pas pour qu'on aille les visiter, nous oui, mais c'est pour les morts. Il y a représenté avec des couleurs, mais luisantes, brillantes, pures, des scènes de tout ce qu'ils ont aimé sur terre. C'est extraordinaire. Donc il y a pour les morts, les banquets, des scènes érotiques, des danses, des pêches, des chasses, etc. Tout ce qu'ils ont aimé sur Terre, c'est-à-dire on va leur redonner ça pour l'éternité. Parce que l'éternité, on ne sait pas trop. Le paradis, c'est ici le paradis, c'est ça qui m'a plu. C'est pour ça que c'est mes copains, les Étrusques. Le paradis, c'est ici. Et on va leur donner ici pour l'éternité. Donc c'est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai choisi ce lieu, cet endroit.
Et parce ça a régénéré votre peinture ?
Parce que je pense que c'est... je vais répondre à votre question, mais je pense que c'est... non, il m'a donné raison. Elle ne m'a pas régénéré, moi j'étais comme ça, mais elle m'a donné raison.
Vous doutiez donc ?
Non. Non, vous voulez toujours que je doute ou que je sois malheureux, mais non, non.
C'est pas forcément être malheureux.
Me régénère ou que... Non, non. Ils m'ont prouvé que ça a existé, le bonheur commun. Chez nous, ça a existé pendant 2 mois. Oui, en 1791, par là. La première constitution républicaine, en haut, le premier article, c'était le bonheur commun. 2 mois après, ils l'ont effacé. Ah, c'est intéressant. Ah non, c'était trop ça, trop le bonheur commun, non, non. Non, non, on en est toujours là d'ailleurs. Tandis que les Étrusques, oui. Par exemple, en 6 siècles de civilisation étrusque, il n'y a pas une seule image de guerre. C'est extraordinaire. Pas une seule, c'est unique dans l'histoire des hommes. Que des images de bonheur, d'être ensemble, de vivre, de respirer, de faire l'amour, chasser, cueillir, pêcher, etc. Ils m'ont donné raison après mai 68, si vous voulez. Et en France, c'était fini. Ils m'ont donné tort. Mais là, les Étrusques, ils disent ça, c'est mes copains. Ben, je suis un peintre étrusque. Voilà, au fond, je continue leur histoire.
Il y a les primitifs siennois aussi, que vous avez retrouvés.
Ça, c'est après. Alors ça, ça a compté beaucoup, parce que, au fond, c'est une terre de 3000 ans de culture. Des Étrusques, et probablement avant aussi, des néolithiques, et tout ça. Mais enfin, là, on voit moins de choses.
Il y a l'allégorie du bon gouvernement, si on en revient à la politique.
Mais
Lorenzetti.
Non seulement on y revient, vous avez tout à fait raison. Ça fait partie de ma présence là, parce que je pense que si hier vous avez parlé de figuration narrative, je pense que ce sont les premiers peintres de figuration narrative, les frères Lorenzetti. Ah oui, ils ont...
Vous nous expliquez.
Il y a une salle dans le Palazzo Pubblico de Sienne que les gens qui voyagent un peu connaissent. C'est une peinture très célèbre. Il y a le plafond de la Sixtine, il y a... les choses de Rembrandt, il y a Goya là-bas, il y a les Ménines à Madrid, et il y a la salle du bon et du mauvais gouvernement dans le Palazzo Pubblico de Sienne, fait par les frères Lorenzetti, vers l'an 1300 par là. Et c'est une peinture, c'est une fresque de toute une salle, donc il doit faire, j'ai jamais calculé, mais ça doit faire 40 ou 50 mètres de fresque, qui raconte l'histoire au fond de la République, pour faire vite. Le bon et le mauvais gouvernement. Qu'est-ce que va donner le Brésilien, les horreurs? Enfin, pour lui faire le procès d'intention, mais enfin, à mon avis, c'est mal parti.
Le Brésilien, c'est Bolsonaro.
Bolsonaro, comment il s'appelle?
Jair.
Jair Bolsonaro. Ah, ils l'ont élu, mais ils vont voir ce que c'est. Et alors, il y a ça dans la fresque des frères Lorenzetti. Il y a les malheurs de la dictature, disons. Et puis, il y a les bienfaits. Alors, il y a la ville, la campagne, etc. Enfin, c'est la première image, au fond, politique, artistico-politique, poético-politique de notre civilisation. Voilà. Donc, ça a compté beaucoup. Les Étrusques, puis cette fresque. Et puis, tout le gothique siennois, tout ça. Et puis, surtout, même plus que tout, le paysage. Auquel je suis très sensible. Non, pas d'autres, forcément, mais moi, je sais pas. Parce que la Toscane est divisée en plusieurs zones. Il y a une zone qui ressemble beaucoup à notre Provence, qui s'appelle le Chianti, avec les oliviers, les vignes, tout ça. Hein. Une autre qui ressemblerait avec la terre de Sienne, rouge, qui s'appelle la Montagnola. Et puis, la zone où je suis, qui s'appelle les Crete Senese, les crêtes siennoises, mais les crêtes, c'est pas des collines. Pourtant, ce sont des collines. Les crêtes, ça veut dire les argiles siennois, qui, il y a 4 millions d'années, étaient sous la mer. C'est intéressant, parce qu'on retrouve des poissons, on retrouve des traces comme ça, c'est marrant, et qui ont été façonnées, sculptées par les moines. Comme toute l'Europe, d'ailleurs, ils ont tout fait, ces moines. C'est, bon, oui, c'est... Il y a eu les Romains, puis après, il y a eu les moines. Ils ont bossé, c'est fou ce qu'ont fait les moines. Ah oui, ils ont tout enseigné aux gens, ils ont fabriqué, ils ont construit, ils ont inventé les canaux, la finance, enfin tout ce qu'on veut, avec une espèce d'abnégation. Puis après, ils sont devenus trop riches. Et comme tout le monde, ils sont devenus trop riches. Bon, enfin bon.
C'est un lieu, c'est une lumière qui vous apaise. Est-ce que la lumière, elle est importante?
C'est la forme de la terre qui est... C'est fait de collines, âpres, alors qui probablement par les moines, il y avait toute l'Europe était couverte de forêts. Ils ont dû eux-mêmes enlever beaucoup de forêts. Le rêve de, comment tu l'appelles, Bolsonaro. Il veut faire pareil avec l'Amazonie. Mais nous, on l'a fait sur toute l'Europe. Mais c'est d'une beauté, là. Alors, ce sont des collines à la fois âpres, graves, comme ça, et féminines. Pour moi, c'est émouvant, c'est touchant. Je vis sur, dans, autour d'une femme qui s'appellerait Sienne ou Toscane. Voilà. Je vis avec Toscane et ses enfants, les Crêtes et Sénésé. Et c'est, alors, il y a un cyprès et une maison sur les collines. Comme ça. Et en plus, c'est très, extrême oriental parce que le matin, il y a des brumes qui couvrent tout, sauf les sommets. Alors, il y a juste comme ces estampes chinoises. Il y a plus d'horizon. L'art extrême oriental, c'est-à-dire, il n'y a pas notre philosophie, le haut et le bas, le ciel et la terre, la division des deux, les savants et les riches et les pauvres, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, tout ça. Chez nous, il y a ça. Chez eux, tu remarqueras, sur les estampes japonaises, chinoises, il n'y a pas d'horizon, c'est marrant. Il y a des personnages aussi bien en haut qu'en bas. Il y a des nuages, il peut y en avoir en bas. Il n'y a jamais le haut et le bas. C'est intéressant. Pour eux, le roi n'était pas... Il y avait un passage tout le temps entre... Voilà, et il y a ça là-bas. Il y a cette espèce d'impression de passage, d'ensemble, de pas de séparation. Ça m'a plu. Et ça me plaît toujours.
La première série que vous avez peinte dans cet atelier à Sienne, elle porte un titre qui n'est pas anodin. Enfin, je sais pas.
Allegro.
Ah non, j'allais pas donner celui-ci.
Ah bon,
j'allais penser à Luftmalerei.
Ah oui, ah bah oui, c'est vrai.
Comment vous le traduisez? Parce que je trouve que la traduction dit peut-être beaucoup de choses de ce que ça a provoqué chez vous.
Luftmalerei. Alors ça, c'est une autre histoire. Je venais de München avec ma compagne Anna, qui est allemande. Elle est plus haut du côté de la frontière hollandaise d'origine, mais on voyageait pour voir les châteaux de Louis II, ça. Et en voyageant en voiture dans la Bavière, dans tous les villages de vallées et de montagnes, les petits villages, beaucoup de maisons étaient couvertes de fresques en façade. Et alors bon, je me suis renseigné quand même. Je me suis dit, mais comment c'est unique, très populaire, visible par tout le monde, etc. Avant d'arriver au château fou de modèle de Walt Disney, de Louis II, les gens du pays appellent ça des Luftmalerei, c'est-à-dire, Malerei, c'est des peintures, Luftel, de l'air, les peintures de l'air, ou les peintures à l'air. Alors, en effet, ce sont des fresques qui sont dehors, et l'idée, c'était que ils étaient riches, les paysans du 18e et 19e siècle, et ils étaient fiers de faire peindre. Alors, à une autre époque, on faisait des tours pour faire le plus malin. Là, on se faisait faire des fresques par les peintres qui avaient du mal à vivre à München, à Munich, dans les villes, et qui ont été bien contents de trouver des paysans qui les payaient pour faire des fresques sur leurs maisons. Donc, ils étaient tout un groupe de peintres qui voyageaient de village en village et qui ont fait... Et ce mot, ce terme, Luftmalerei, c'était joli. Hélas, je ne parle pas l'allemand, qui est une très belle langue. En arrivant en Toscane, donc... J'ai eu envie d'être comme eux, alors un peintre étrusque et un peintre des Luftmalerei. J'avais fait une série de 80 pastels, je me rappelle très bien, de mon arrivée en Italie, avec l'éblouissement des peintures fresques étrusques et le souvenir des peintures fresques Luftholmalerei en Allemagne. Et donc, j'ai un voisin allemand qui m'appelle l'Angelo delle Crete, l'ange des Crêtes. Oui, ah ben, pourquoi pas. Donc, je suis devenu peintre étrusque avec une inspiration bavaroise des peintres du 18-19e et avec ce nom, ce mot formidable de Luftholmalerei, c'est joli, les peintures de l'air. Oui, au début, je ne parlant pas l'allemand, Malerei, je disais, mais quoi, il parle de malheur tout le temps. C'est comme la gauche en italien, la sinistra.
Picturalement, ça se traduit comment?
C'est difficile de parler, il faut voir la peinture. Faut
on
voir
peut pas
les
en parler
dessins.
On ne peut pas la décrire?
Bon, c'est difficile. Enfin, donc, il s'agit d'une petite centaine de pastels, parce que j'étais parti de Paris, je n'avais plus d'atelier à Paris, je n'avais plus rien, et je n'avais pas encore d'atelier en Italie, j'arrivais, et j'avais acheté cette ruine totale pour rien, pour vraiment 3 lire, j'avais honte même, enfin bon. Et le propriétaire m'avait dit, mais vous savez, j'augmenterai pas. Oh, j'ai pas, heureusement, tu parles. Ah non, c'était incroyable. Et donc, pendant une année de chantier, de mise un peu de restauration de ce lieu, au moins que ce soit vivable, des gens m'avaient prêté, le notaire m'avait prêté sa maison, et puis des Français qui venaient là, qui avaient une maison de résidence secondaire, disons, pas loin de Sienne, m'avaient prêté, en disant, mais j'avais pas d'atelier. Donc, je m'étais fait un atelier avec 2 chaises, une pour m'asseoir, une autre pour mettre un carton à dessin sur le plateau de la chaise, les instruments, et une boîte de pastels. Et pendant 8, 9, 10 mois, j'ai fait une série presque d'une centaine de pastels sur cette chaise. Et c'était la raison matérielle. Et parce que je me suis jamais vraiment arrêté de... On dit travailler, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Enfin,
vous dites que vous n'aviez plus d'atelier à Paris.
Oui, c'est ça, voilà. Alors, je me suis fait mon petit atelier de 1 mètre carré.
Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous étiez très, très bien. Là-bas, en Toscane, à Sienne, c'était très apaisant pour vous, très régénérant. Mais vous êtes revenu quand même à Paris et vous avez trouvé cet atelier-là, où nous sommes aujourd'hui.
Oh oui, mais
pourquoi vous avez eu besoin...
Des années après.
Oui, mais pourquoi vous avez eu besoin de revenir à Paris? Parce que les atmosphères étaient complètement différentes.
Je n'ai jamais quitté Paris. Voilà. C'est la réponse. Parce que, heureusement... J'avais un frère que j'aimais beaucoup, qui est mort depuis, architecte, qui me prêtait une partie de son agence quand je venais à Paris. Parce que les premières années, je vivais quand même 8 mois là-bas, à Sienne, oui, enfin à Montauto. Et le problème, c'est que ça peut pas être les bergers sardes. Parce que là où je suis, il y avait les Étrusques, puis les Toscans, mais depuis 50 années, ce sont les Sardes qui occupe, colonise cette partie-là de la Toscane. Comme chez nous, il y a eu une transplantation, transmutation, une émigration des paysans toscans vers les villes. Ils n'en pouvaient plus, c'est trop dur avec les bœufs, les collines, monter, descendre. Et ils ont trouvé plus pauvres qu'eux, les Sardes, et plus astucieux pour ces terres de collines, de monter et descendre, des forts gros. Des moutons. Ils ont amené, c'était des bergers, il y avait des milliers de moutons. Les moutons, il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de bœufs, il n'y a pas de machin. Il n'y a qu'à les laisser manger l'herbe. Et donc, ils ont colonisé toutes ces collines. Et c'est pas eux qui sont collectionneurs d'art contemporain. Et alors, bon, alors, ben, moi, même pour échanger un agneau à Pâques ou à Noël, mais contre quoi? Non, ça les intéressait pas du tout. Ils étaient là pour l'herbe. Et pour ça. C'est intéressant d'ailleurs comment chacun voit les choses. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je vois devant le même paysage? Eux, c'était la beauté de ce paysage, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Par contre, la terre bonne ou mauvaise, le fumier à mettre, oui, mungere, c'est-à-dire, oui, on fait pareil avec les oliviers, on appelle ça mungere, c'est-à-dire traire. Oui, à part ces travaux quotidiens très durs d'ailleurs, avec une vie... ils gagnaient pas mal d'argent, mais ils avaient une vie pauvre, une vie très dure. Ils ont toujours d'ailleurs, de moins en moins, parce qu'ils sont devenus toscans, à force, ils sont devenus toscans. les enfants vont à l'école, deviennent toscans, etc.
Alors, il y avait la nécessité d'être à Paris pour être au contact des marchands, du marché,
pour vivre. De mes copains artistes. Ouais. Et j'aime bien les deux. Au fond, cette vie me laisse en appétit tout le temps. Au bout de 1, 2, 3 mois de la beauté, de l'angelo delle crete, de la beauté et tout ça, j'en ai marre. Ça va bien. Il y avait la phrase de Ionesco sur la campagne. J'adorais cette phrase. Oh, puis toute cette herbe, toute cette salade. Bon, bref, là, bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai besoin de ma culture. J'ai besoin de la ville, les métropoles, l'agitation, les amis, les copains, voilà, le cinéma, je sais pas, tout. Tout, la folie, la bêtise, l'actualité artistique, les grandes expositions, tout ça. D'abord, aller les voir, puis éventuellement essayer d'en faire. Et tout ça demande une présence. Voilà, alors,
mais ces deux atmosphères-là, on les retrouve.
Elles
s'équilibraient ?
Oui, elles s'équilibraient.
Et on les retrouve dans votre peinture ?
Au bout d'un mois, 2 ou 3 à Paris, j'en pouvais plus. Je faisais dingue, je dis, monte à outre. Je le dis encore d'ailleurs, au bout d'un mois ou deux. Ça devient un rêve là-bas. Donc, en appétit. Et j'ai la chance de pouvoir, pour le moment, de tenir le coup économiquement pour pouvoir jouer les deux.
Ce qui est assez fascinant dans votre peinture ou dans votre évolution, c'est qu'au fond, on l'a
fascinant.
Dit.
Fascinant. Oh, bah alors.
Fascinant, je le
dis.
Ah
oui, formidable.
Je l'affirme. C'est qu'il y a eu une évolution dans votre geste, il y a eu des ruptures formelles, mais vous n'avez jamais complètement abandonné certaines figures des années 60. On les retrouve aujourd'hui, mais agrémentées. C'est comme si vous aviez sédimenté ces différentes périodes, et j'en veux pour preuve, il y a une peinture ici dans votre atelier, qui au fond cristallise ou témoigne de ce mélange des différentes cultures, des différentes époques, des différentes influences. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Vous n'aimez pas décrire votre peinture, mais est-ce que vous pouvez le faire malgré tout, celle-ci ?
Mais vous pouvez, vous ? Qu'est-ce qu'on voit, alors ? Allez-y.
Alors, que voit-on ? On voit ces fameuses silhouettes détourées, avec ces aplats de couleurs vives. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a du bleu. Et ces passants, on pourrait considérer que ce sont passants, nous font face. Donc c'est une peinture très frontale, c'est comme s'ils avançaient vers nous.
Oui.
Et puis, vous avez recouvert ces grandes silhouettes de figures étrusques. C'est comme si c'était un banquet.
Oui.
Voilà. Ça, c'est une peinture récente ?
C'est une peinture très récente, c'est peut-être même la peinture la plus récente. Qui est les artistes, en tout cas dans notre pays, on est beaucoup sollicités pour... ce qu'on appelle le caritatif, les ONG, les associations. Alors un coup, c'est les Restos du Cœur, Droit au Logement, l'Institut Curie, Orphéopolis, le SIDA, une école au Vietnam ou au Pérou, etc. Beaucoup, toute l'année. Agri-Sud, alors à Madagascar, enfin, il y a tout le temps quelque chose et c'est nous qu'on vient trouver. J'ai beau leur dire, mais demandez aux industriels, demandez aux notaires, aux architectes, ils sont riches. Enfin bon, bref. Les artistes, évidemment, on est sympas la plupart. Alors on donne. Et alors là c'est une belle cause. C'est un collègue, comme on dit, c'est-à-dire le peintre Gérard Garouste, que je ne connais pas.
Ah.
Non, je ne connais pas. Enfin, je connais son œuvre, bien sûr, mais je ne connais pas personnellement, qui a une association qui s'appelle La Source, qui est dédié aux enfants qui ont des difficultés ou etc. et qui ont des thérapies à travers la peinture tout ça, mais qui a besoin de probablement d'assistants, de professeurs, de gens qui sont là, qui s'en occupent, parce que ça devient très important. Et cette année, il a demandé à un certain nombre d'artistes, dont moi, de si on voulait bien réaliser une œuvre à vendre, cadeau à vendre, au profit de son association La Source. Voilà la raison de ce tableau. Et il y avait un thème, il y avait d'abord un format, c'est celui-ci, 1m30 par 1m à peu près, et un thème, le festin. Bon, pourquoi le festin ? J'en sais rien. J'ai dit, bon, d'accord. Alors le festin, j'ai donc fait un festin étrusque au milieu de... C'est-à-dire, j'ai fait deux machines culturelles différentes, une image très moderne des passants, comme j'ai l'habitude de faire, disons, oblitérée. Et au niveau de leur ventre, une longue fresque étrusque d'un festin, comme si les deux machines culturelles traversaient le temps ensemble. Le bonheur étrusque lié à la masse qui porte ça en elle, forcément, puisque c'est son passé. En quelque sorte, le festin étrusque devrait être très content de faire partie de la foule actuelle. Enfin bon, voilà, c'est l'explication. Et pour une fois, j'ai fait un format horizontal, c'est rare.
Vous sédimentez ? Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Est-ce que pour autant vous avez abandonné certaines choses ?
Expliquez-moi ce mot-là, ça veut dire.
Sédimenté, j'y vois comme un millefeuille, c'est-à-dire de toutes vos expériences, de toutes vos expérimentations picturales. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez abandonnées avec le temps ?
Je ne sais pas, peut-être, sans doute.
Vous êtes un meilleur peintre aujourd'hui ?
Non. Oh non. On progresse pas en peinture. Non. On évolue. Disons qu'il n'y a pas de progrès en art. Il y a des évolutions, les progrès. Alors les progrès techniques, évidemment, si je me compare à la chapelle Sixtine de Monsieur Michelangelo Buonarroti, la technique, c'était incroyable ce qu'il faisait. Sans photographie, sans modèle, comment il inventait tous ces milliers de personnages, etc. Bon, ou d'autres, naturellement. Maintenant, progresser... la seule chose, le seul domaine dans lequel j'ai progressé, c'est la propreté. Au début, en italien, on dit « una tutta », c'est-à-dire un vêtement, comme les garagistes, entier, des pieds à la tête, parce qu'on fait des cochonneries tout le temps dans l'appart, la peinture, les tubes, les pinceaux, la térébenthine, l'huile, tout ça. C'est un métier, c'est un artisanat. Voilà. Et alors, petit à petit, j'avais plus que un tablier, comme les cuisiniers, puis après ça, un petit foulard dans ma ceinture pour essuyer mes doigts. Puis maintenant, j'ai plus rien, je peins comme ça. Parce que ça se fait tout seul, petit à petit, on devient plus habile. Donc on évolue, mais c'est pas un progrès. Sauf là où c'est quand même plus simple. Oui, sédimentation, oui, abandonner des choses. J'aurais jamais pensé à ça, il faudrait que je réfléchisse. Sûrement, il y a des choses que j'ai abandonnées. Je vais un peu plus vite. Mais ça, c'est la modernité, il faut aller vite. Parce que je ne peins pas tous les jours. J'aime pas ça. Donc, mais j'ai dit hier, pas par nécessité. Alors, la nécessité, ça veut dire qu'il faut aller vite. C'est un peu effrayant, quoi. Je dors plus, je suis dedans. C'est la nécessité. C'est pas un progrès.
Merci, Gérard Fromanger. À demain.
À demain, avec plaisir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claire Maillot avec Gérard Fromanger. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Thomas Robin, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.